Vraiville PM. Politique.
Inacceptable, par exemple, que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Mauricie payent un taux de taxe scolaire 3 fois plus élevé que le taux dans d'autres régions. Sinon, je vais en profiter pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Là, je sais que le PQ ne veut pas qu'on fasse nos vœux aujourd'hui. Demain, je vais être à Montréal avec les premiers ministres. Donc, reposez-vous. Prenez du temps avec vos familles.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ben, c'était le premier ministre François Legault, donc, ce matin, pour discuter donc de cet autre projet de loi déposé ce matin sur les taxes scolaires. Paul Journet, éditorialiste, bonjour.
Bonjour.
Carl Bélanger, stratège, bonjour.
Allô.
Alors, c'est un autre engagement tenu, mon cher Journet?
Oui, aucune surprise là-dessus. Faut quand même rappeler ce qui s'est passé. Les taxes scolaires, t'avais deux formes d'iniquité. La première, t'avais des variations entre les régions. Et la deuxième, à l'intérieur des régions. Ça veut dire que t'as un autre citoyen qui a une maison qui vaut 300 000 $, la tienne vaut 300 000 $, mais lui, son taux de taxe scolaire est plus grand que le tien, même s'il est dans ta région ou parce qu'il est dans une autre région. Dans les deux cas, la CAQ y voyait un problème. Il y avait déjà eu une première modification faite par le gouvernement libéral où on avait modifié les variations entre à l'intérieur d'une région.
Donc, on uniformisait.
C'est ça. Mm-hmm. Et dans le deuxième cas, la CAQ arrive, puis ils finissent l'harmonisation, puis ils disent il n'y aura plus de différence entre les régions. Et il faut dire qu'ils mettent ça au taux le plus bas. Donc, on égalise et on abaisse.
Comme chez Walmart.
Exact. Sauf que, écoute, par où commencer pour la différence entre Walmart et l'État? Je veux dire que c'est au total, on soulage les contribuables, sauf qu'on enlève 1,3 ou 1,4 milliard de dollars qui étaient consacrés aux commissions scolaires, donc au financement de l'éducation.
Est-ce qu'ils ont répondu à la question ce matin comment ils vont compenser ça?
Bien, ça va être dans le budget. T'sais, c'est un jeu de. Là, ça engage toutes les dépenses de tous les ministères, puis la réponse à l'heure des charges est pas simple, mais ils se sont engagés fermement à ce que ça ne mène pas à une réduction des dépenses en éducation. La preuve, ils ont dit, même s'il y avait un ralentissement de l'économie, on s'engage à maintenir les budgets en éducation, à ne jamais couper dans les services. Mais la réponse, donc, elle va être bien, bien technique. Mais je ne sais pas s'ils vont réussir à épargner les autres postes budgétaires pour lesquels on ne veut pas de réduction de dépenses. J'imagine qu'eux vont dire qu'ils vont couper dans le gras ailleurs. Comment? La réponse, ils l'ont pas encore, ils travaillent.
OK, mais dans ton esprit, c'est clair que quand Legault dit « on va pas toucher au budget de l'éducation », ça inclut le 1,3 ou 1,4 milliard qu'il vient d'enlever.
Mais oui, il faut qu'il compense, sinon.
Aux commissions scolaires. Pour toi, c'est une évidence, là. Il peut pas se défiler là-dessus, là.
Non, puis je pense pas que j'ai jamais eu l'intention
de faire
le contraire.
Parce que c'est du gros argent, là. C'est du gros argent, là. Ben oui, absolument.
Mais c'est bien beau maintenir. Mais quand on regarde les écoles du Québec, il y a un besoin d'augmenter.
Ben oui.
Et c'est là où est le problème, parce que si on nivelle par le bas l'argent qu'on va ramasser au niveau de la taxe scolaire, mais est-ce qu'on va niveler par le bas au niveau des besoins des différentes écoles? Est-ce qu'on va établir le dénominateur commun le plus bas possible? C'est une inquiétude que moi j'ai. Je sais que c'est une inquiétude que plusieurs dans le milieu ont. Évidemment, on dit on va maintenir, mais avant que ça soit fait, que ça soit dans le budget, les gens se posent des questions parce que mathématiquement, il y a de l'argent, il faut que ça vienne de quelque part.
Mais bon, moi je les crois sur parole quand même. Là. Jean-François Roberge a été très très clair. Là. Il a dit que dans aucun cas,
y a-tu quelqu'un aujourd'hui, Paul, qui a répété, il a dit on vous garantit que le 1,3 ou le 1,4 qu'on enlève en uniformisant à la baisse la taxe scolaire, ça, cet argent-là, on va le redonner, on va le trouver et on va le s'assurer qu'il reste dans le système scolaire.
Ben, si j'ai bien compris, le ministre des Finances est en train ou est sur le point de parler, mais écoute, il le répète depuis des semaines et des semaines. Là, donc là-dessus, là, je les prends au mot.
OK. Très bien. Parlons d'armes. Hein, de contrôle des armes. Carl, je sais pas, m'as-tu entendu là, il y a un instant? Là,
oui,
as-tu
vu
l'entrevue que j'ai faite avec Poli ce sujet?
J'ai entendu aussi le premier ministre ce matin à Paul Arcand qui semblait ouvert à tout le moins. Et on le fait depuis quelques mois, là, hein, au mois d'août, lorsqu'on a fait le remaniement. On a donné le mandat au nouveau ministre de la réduction du crime organisé, Bill Blair, d'analyser la possibilité d'interdire complètement les armes de poing et les armes d'assaut au Canada. Alors, on en parle depuis le mois d'août. Je peux dire que ça n'a pas avancé beaucoup.
Mais non.
Le caucus libéral qui a suivi cette annonce à Saskatoon au mois de septembre, ça a brassé. Les libéraux ruraux n'étaient pas contents. déjà qui sont pas contents avec le projet de loi C-71 qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement au Sénat, là,
qui resserre, pas tant que ça.
Et rappelle-toi, à l'époque, le lobby, comme Pauly se souvient, et d'autres qui sont en faveur du contrôle des armes, se disaient que C-71 n'allait pas assez loin.
Ben oui.
Et effectivement, c'est le cas. Alors, ce qu'on voit, c'est une espèce d'étapisme de la part du gouvernement libéral. Donc, on fait des mesures, on essaie d'en faire passer...
Mais de quoi ils ont peur, les députés ruraux? Excuse-moi, là, Carl, moi, je suis un rural.
Okay? De perdre.
Moi, je suis un rural. Écoute-moi bien, là. Je suis un chasseur, OK? Ouais. Bon. Je suis capable de faire la distinction entre un 12 pompeux, une arme de chasse semi-automatique, comme celles qui sont vendues chez les armuriers, et une arme d'assaut utilisée dans les tueries aux États-Unis. Puis il me semble qu'un député rural libéral doit être capable de faire la différence et tout. Et ce dont on parle ici, on parle pas d'un 12 ou on parle pas des armes semi-automatiques de chasse qui, dans certains cas, ont carrément l'air d'armes militaires, là, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle des armes d'assaut du type AR-15. Il y en a combien de voteurs qui utilisent des armes de type AR-15 dans le comté de Timmins, dans le nord ontarien, ou dans un comté rural ou semi-rural du Canada? Ouais, y en a-tu tant que ça, franchement, Carl?
C'est pas si simple que ça, parce que lorsque l'électeur prend sa décision sur ce dossier-là, il considère pas en ces termes. C'est en termes de... C'est le libertarien, ceux qui sont en faveur des armes à feu, qui trouvent qu'il y a trop de contrôle déjà, et qui veulent pas que le gouvernement s'immisce là-dedans. Et même s'il y a juste 20%, on parlait tantôt dans ton émission, là, on parlait de 80% qui est en faveur. Mettons qu'on prend ces chiffres.
Ça parle des armes d'assaut, là. Oui, bien sûr.
Mettons qu'on prend pour le besoin de la cause, là, qu'il y a 20% des électeurs qui c'est un dossier qui les touche.
Oui.
OK?
C'est déjà beaucoup.
Il y a 30 comtés au Canada où l'élection s'est jouée par moins de 5%. Si parmi ces 20%-là, t'en as la moitié qui ont voté pour toi, puis que tu fais un geste sur les armes à feu, puis qu'ils décident d'aller voter ailleurs, ben tu vas le perdre, ton comté. Fait que c'est pour ça que ces gens-là sont frileux. Puis je vais te dire, ça remonte ça, là. Rappelle-toi, en 1990, donc un an après la tuerie à Polytechnique, Kim Campbell, qui était ministre de la Justice, a déposé un premier projet de loi là-dessus. C'était le projet de loi C-80, qui avait des mesures au niveau de comment stocker les munitions, comment s'occuper des armes. Ça n'allait pas aussi loin que ça allait aller par la suite, mais c'était un premier projet de loi. Mais ce projet de loi-là a été battu en deuxième lecture à cause notamment des députés conservateurs qui ont voté contre son propre gouvernement. Fait que ça a commencé là, la dérape du contrôle des armes à feu au niveau gouvernemental. C'est devenu un bal de ping-pong politique. Et en 95, quand Jean Chrétien est allé avec son projet de loi sur les registres des armes à feu, ben encore une fois, il y a une bonne partie du caucus libéral qui ont voté contre.
Fait que c'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle Trudeau avance pas, c'est parce que son caucus ne lui permet pas d'avancer.
Il y a les deux pieds sur le frein du côté du caucus libéral. Les signaux qui sont envoyés, là, ils sont très forts.
C'est pas conservateurs, évidemment, qui vont nous faire avancer.
Puis, même à l'époque, il me semble que le caucus du NPD était lui aussi divisé, ou à tout le moins, il n'y avait pas de consensus là-dessus.
Absolument. Mmh. Absolument. Les députés ruraux, particulièrement en Saskatchewan, même la chef à l'époque, Audrey McLaughlin, qui venait du Yukon, avait voté contre. Et puis, il y avait Sven Robinson, qui lui, comté rural, qui était un des seuls qui
comté rural?
Comté urbain, pardon. Vancouver. Qui avait voté pour. Le NPD, c'est une question. Écoute, moi, en politique, j'étais dans des caucus, là, mais des caucus mouvementés sur la question des armes à feu, là, j'en ai vu beaucoup. Jack Layton, qui suppliait des députés de changer leur fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, pour voter avec le gouvernement sur des mesures ou tenter d'empêcher le gouvernement conservateur d'abolir le registre des armes à feu. Il y a eu du tordage de bras, puis Jack Layton a joué beaucoup de son capital politique à l'époque avec des députés ruraux du NPD.
C'est un jeu très, très, très émotif. C'est ça que tu nous dis.
Absolument.
Aussi. OK. Bon, mais écoute... Ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment un resserrement des contrôles, là. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Ben écoute, on va voir ce qui va arriver avec C-71. Là, c'est au Sénat. Ça fait 7 mois que c'était déposé. C'est une première étape. Mais je peux te dire, je serais surpris qu'il y ait un projet de loi qui soit déposé avant l'élection et adopté avant l'élection dans les circonstances actuelles. Quand tu écoutais Justin Trudeau, on regarde, on consulte. On n'est pas dans l'action immédiate, là.
Non, t'as raison. Et bâton. OK, on va s'arrêter. Puis on va continuer. Suite après. PM. Bon, de retour avec Paul et Carl. Paul, tu voulais rajouter ton petit grain de sel sur l'histoire des armes en nous rappelant qu'à Québec, on a un registre des armes à feu qui est déjà en vigueur. Et puis, les chasseurs refusent pour plusieurs d'entre eux d'aller inscrire leur arme. Puis, ils ont jusqu'à la fin janvier pour le faire.
Exact, jusqu'au 29 janvier. Donc, ça s'appelle le service d'immatriculation des armes à feu. C'est gratuit, c'est sur Internet. Ça coûte rien.
Ouais.
Ça prendra à peu près 3 minutes par arme. Puis, ils sont pas mal en retard. Là, selon les estimés, on aurait seulement le sixième des armes qui auraient été enregistrées. Il reste à peine un mois et demi. Mmh. On sait, il y a un lobby qui est contre l'enregistrement des armes.
Ouais, ouais.
Écoute, peut-être qu'on va avoir un effet, si on est optimiste, un peu comme les pneus d'hiver. Là. Tout le monde attend la dernière minute pour les faire poser. Mmh. Je répète, je suis optimiste. Pour l'instant, le gouvernement caquiste, il va avec la carotte, c'est-à-dire le registre est là, il existe. Allez, vous... enregistrer vos armes. Ouais. Vont-ils devoir passer à une nouvelle étape et y aller avec des mesures plus punitives? Ils disent qu'ils ne sont pas rendus là. Je les comprends. Attendons de voir où on est rendu dans le décompte au milieu de l'hiver, mais ça aussi, c'est un dossier à surveiller.
OK. Carl, y avait-tu un autre dossier dont tu voulais nous parler?
Mais le fameux pacte de Marrakech, mon ami.
Ah, parle-moi donc du pacte de Marrakech. Le pacte sur les migrations.
Oui, c'est le pacte...
Oh, qu'on avait besoin de ça, nous autres!
Ben, écoute, c'est intéressant. Hein? Est-ce qu'on en avait besoin? Paul Arcand a parlé avec le premier ministre ce matin.
Ouais,
on
ouais.
pourrait écouter sa réponse là-dessus.
Ah. Comprends que les gens au Canada peuvent se demander à quoi ça sert parce que nous, on est en train déjà de bien gérer notre système d'immigration. Même les demandeurs d'asile, là, on fait une analyse de sécurité, on les fait passer par notre processus. Il n'y a pas de raccourci pour arriver au Canada. On est en train de bien gérer notre système d'immigration. Mais partout dans le monde, en Europe, où il y a cette crise en Venezuela qui a des millions de personnes qui s'éparpillent partout en Amérique du Sud, on a un grand défi parce que différents pays ont beaucoup de misère à voir comment gérer leur crise d'immigration. Alors, l'expérience...
Là, vous avez le cœur sur la main. Là, vous voulez ouvrir les portes du Canada.
Non, je veux partager les solutions que nous, on a au Canada.
Mais partage-les, les solutions. On n'a pas besoin d'impact. Partage tes solutions, mets du monde sur la route qui vont voir les pays, puis on va lui montrer, nous autres, comment on est bon. Mais pourquoi on a besoin de cette patente à gosse-là, mon
écoute,
ami
Carl? Deux choses. Premièrement, je suis pas certain que les solutions canadiennes sont si bonnes que ça. Là. Le système d'immigration puis d'accueil des réfugiés au Canada, est-ce que ça fonctionne sur des roulettes? Pas certain si tu demandes à l'Ontario puis au Québec qui demande au fédéral d'embarquer puis de payer des factures, qui seraient d'accord avec ça. Je lisais hier un cas dans le Journal de Montréal, des réfugiés qui sont arrivés, ça fait 9 ans là, qu'ils sont là. Puis là, le fédéral leur monte la porte après 9 ans.
Ouais.
Fait que ça va-tu bien? Pas sûr. Pas sûr. Les solutions, pas sûr. Ceci dit, je pense que les pays se parlent et qu'ils discutent de ces enjeux-là ensemble, c'est pas une mauvaise chose.
Je suis d'accord.
Surtout quand le pacte en question, et je sais que tu l'as lu, Bernard, mais c'est un pacte qui dit clairement qu'il n'est non contraignant.
Ben
il n'y a pas d'obligation légale. T'es pas obligé de le suivre. Donc, si tu manques...
Ça sert à quoi, d'abord?
Ben voilà. Et c'est une discussion qu'il faut avoir entre les pays pour savoir comment on peut gérer les flux migratoires.
Moi, je pense qu'on est en train de jeter les bases d'un nouveau droit. Le droit à la migration, j'insiste là-dessus, qui serait dans le prolongement du droit des réfugiés. Puis franchement, si c'est ça, puis je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, ils devraient nous le dire, les gouvernements, avant de signer en notre nom cette patente-là.
Ouais, mais tu penses vraiment que ça va jusque-là?
Ben écoute...
Mais pour l'instant, c'est pas ça que ça dit. Pour l'instant, c'est pas ça que ça dit, mais c'est sûr que ça ouvre la porte à l'opposition. Mm. Et puis d'ailleurs, hier, Andrew Scheer a tenté de déposer une motion là-dessus à la Chambre des communes. On peut écouter ce que ça donne. To refrain from signing Canada onto the UN Global Compact on Migration, secure our borders and host domestic. On a compris, là.
Je pense qu'il n'y avait pas le consentement.
Il l'a pas eu. Il n'a pas eu le consentement.
Il y a eu le party, mais pas le consentement. Au-delà des conséquences juridiques, je note que depuis qu'on en parle, c'est pas quelque chose qui a apaisé le débat. Au contraire, quand lire là où ça pourrait mener, ça avive les craintes d'une bonne partie de la population. C'est pas ce qui nous permet de gérer ça nous-mêmes, le Canada,
avec
de façon sereine.
Avec sérénité,
ouais,
exactement.
Mais d'ailleurs, c'est un peu de la faute du gouvernement Trudeau, puis même de Justin Trudeau lui-même.
Ils en ont pas parlé, Carl.
Et il l'explique pas. Sa réponse d'un matin qu'on va exporter notre savoir-faire, je m'excuse, mais pour les gens là qui voient les réfugiés arriver puis qui passent par le chemin Roxane puis tout ça, ils savent bien que ça marche pas.
Moi, je trouve qu'on étire l'élastique là. Tu sais, parce que moi, je vais vous dire, là, je pense que la majorité des gens là, ils sont à bout. Ils sont juste à bout. Et ce qu'on voit en Europe, puis ce qu'on voit aux États-Unis, là, les extrêmes qui s'expriment à un moment donné, c'est du monde à bout qu'on n'a pas assez écouté. Et moi, je pense que les Canadiens et les Québécois, de façon générale, sont des gens généreux. Je pense que tant on leur dit on a des obligations envers les réfugiés, il faut les respecter, il n'y a pas personne qui dit déchirons le traité qu'on a signé. Mais là, on en rajoute une couche. Là, on leur dit, mais sais-tu quoi, en plus des obligations existantes, on va aller signer une autre affaire qui est peut-être pas contraignante, mais qui est une forme de déclaration de principe.
Je peux comprendre qu'on veuille avoir une entente, par exemple, entre les pays européens. Parce que si tu regardes la géographie, s'il y a un pays européen qui accueille tous les demandeurs d'asile puis les autres en ont pas, il y a une certaine inéquité. Puis géographiquement, ils sont pris avec le problème ensemble. Mais le Canada est très distinct de par sa géographie. Il y a une assez grosse frontière qui s'appelle l'océan Atlantique, entre autres. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes systèmes. Je comprends une certaine concertation européenne, mais de là à faire une entente internationale, là, on ajoute une autre dimension à l'affaire.
Quand même, il y a 190 pays qui sont là-dedans. Là. Ils vont signer ça la semaine prochaine à Marrakech, justement, au Maroc. Ceux qui sont pas là-dedans, ben c'est les Américains, Donald Trump, puis tu sais...
Une couple d'autres pays là, qui sont pas trop fréquentables.
Il y a l'Autriche.
Ben, l'Autriche, je ne savais pas, mais je sais que la Hongrie s'est retirée. Là, c'est l'extrême droite, pas mal.
Exact. La Suisse non plus signe
c'est
pas.
C'est sûr que, tu sais, quand tu regardes... La Suisse a décidé de ne pas signer?
Non, la Suisse ne signe pas.
Ah, tu vois
mais
Suisses?
Mais pour l'instant, là, c'est non contraignant, c'est des énoncés de principe. Puis je pense que c'est important qu'on se parle.
Je suis d'accord. Mais est-ce que ça doit être la forme que ça doit prendre, là? On signe de quoi? Moi, ce que je retiens, c'est qu'on signe de quoi? On a beau me dire que c'est pas contraignant, là. Je sais pas. En tout cas, regarde bien. On verra. Mais ça va être signé quand on verra.
Ça va être signé.
C'est ça le problème. Carl Bélanger, Paul Journet, merci à vous deux.
Merci.
Je vous souhaite une belle fin de journée, tiens.
C'est bien.
Hein, c'est correct.
Aussi, bien, merci.
Ah oui, absolument.
Merci.
Le 98.5, encore une fois, le grand numéro 1 des sondages numériques.